Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce café scientifique de l'Université de Neuchâtel. Ce café qu'on peut dire de la rentrée, puisqu'on est en pleine rentrée universitaire. Et puis, merci à toutes et à tous d'être présents. J'allais dire, malgré la météo exceptionnelle en ce milieu de semaine qui pousse peut-être plus à flâner à l'extérieur. Moi, je me présente, je m'appelle Emmanuel Guérig. Je suis journaliste et en même temps, je travaille à la ville de Neuchâtel. Et puis, mes collègues de la communication à l'université m'ont prié de modérer ce débat, ce que je fais avec grand plaisir. Alors, une petite introduction tout d'abord, ensuite je vous présenterai les intervenants. Depuis 2 ou 3 ans, ce sont les véritables vedettes des médias, au point qu'il est impossible de ne pas en avoir entendu parler, ni même de ne pas en avoir vu de vos propres yeux. On ne parle pas ici de people ou de candidats au Conseil fédéral, mais bien des jardins potagers urbains. On les trouve sous forme de grands bacs à fleurs dans les cours d'immeubles ou même en pleine terre, par exemple, dans les anciens terrains vagues, et même récemment dans les jardins beaucoup plus chics. Il suffit d'aller faire un tour à 200 mètres d'ici, au jardin du Pérou, pour apercevoir des maïs, des choux et des tomates poussés le long des allées de gravier du plus beau jardin à la française de Neuchâtel. Les jardins potagers urbains, version remasterisée des traditionnels jardins familiaux, vous savez, ces jardins pour lesquels il fallait attendre 10 ans pour obtenir une parcelle à soi, eh bien ces jardins-là, ils fonctionnent tout à l'inverse. Ils sont non plus privatisés, mais ouverts, collaboratifs, visant le partage et le vivre ensemble dans une société de plus en plus consciente à la fois de l'écologie et de l'alimentation saine, et désireuse de plonger les mains dans la terre pour se reconnecter avec la nature. Alors les potagers urbains sont-ils une simple mode, une lubie de citadins, ou au contraire sont-ils l'un des symptômes qu'un mouvement profond est en marche, susceptible de transformer radicalement le rapport entre production et alimentation? Le film documentaire « Demain », sorti en 2015, semble avoir suscité une vaste prise de conscience de l'importance des thématiques de la durabilité, de l'écologie, de l'alimentation saine, du vivre ensemble et avec la planète. On l'a oublié, mais les villes ont longtemps été des lieux de production agricole. Au Moyen-Âge, les cités étaient toutes ou presque entourées d'une sorte d'auréole de verdure, le mot est de Georges Duby, destinée à la production alimentaire, et même les rares interstices à l'intérieur des murs étaient utilisés pour un jardinage de subsistance. Et puis beaucoup plus près de nous, en Suisse, dans un climat d'incertitude lié à la Seconde Guerre mondiale, le fameux plan Wallon avait transformé les villes, en tout cas ces jardins, en surfaces maraîchères, doublant presque la superficie agricole pour viser l'autosuffisance alimentaire. Les enjeux sont tout autres aujourd'hui, même si nous votons précisément dans 4 jours sur la thématique de la sécurité alimentaire, preuve que la question de la production indigène reste centrale, même si elle se pose en termes non plus de pénurie, mais plutôt de qualité de la survie de la filière agricole suisse, dans un contexte de compétition mondiale effrénée. Ce qui réunit dans les potagers urbains ces nouveaux agriculteurs citadins tenant de la permaculture, du slow food, du bio, c'est autant les questions écologiques qu'alimentaires. Écologiques, car l'agriculture d'aujourd'hui est ou semble, de manière globale et au dire de nombreux experts, polluante, émettrice de CO2, épuisante pour les sols et réduisant la biodiversité. Elle est aussi alimentaire car rien, semble-t-il, ne vaut une tomate produite au naturel à 2 pas de chez soi. Le goût, on en parle beaucoup à Neuchâtel cette année, où la ville a été nommée Ville Suisse du Goût 2017, l'occasion de mettre à l'honneur les recettes du terroir et les saveurs authentiques. On le sait, en 2050, 70%, à peu près 70% de la population mondiale vivra dans des villes. En Suisse, l'urbanisation galope à raison d'un mètre carré bétonné par seconde. Est-ce que l'agriculture du futur, dite 4.0, avec ses fermes verticales et ses technologies numériques, vont trouver un terreau particulièrement fertile en ville? Et est-ce que les potagers urbains, d'apparence modeste, avec leur mode de gestion participative et horizontale, feront-ils partie de cette nouvelle équation? Est-ce que l'on est en train de vivre une profonde révolution, autant technologique que sociale, où une myriade de petits producteurs échangent et interagissent sur un mode horizontal? Est-ce que la ville, au fond, va sauver l'agriculture? Ce sont en gros ces questions que nous allons aborder ce soir à ce café scientifique auquel, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue, en compagnie de 3 invités, de 3 experts que je vais présenter à tour de rôle. Tout d'abord, Yann Hugoli, qui est directeur de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, la CNAV, depuis 2012. Yann Hughly a baigné dans l'agriculture depuis toujours. Fils d'agriculteur à Boncourt, il s'est d'abord formé par un CFC, puis une maturité gymnasiale, et a décroché le titre d'ingénieur agronome HES, avec pour spécialisation la production animale et végétale. Avant cela, il a travaillé comme conseil agricole, prioritairement dans le secteur gestion d'entreprise et remise du patrimoine agricole. Accessoirement, il préside l'interprofession de la vigne et du vin de Neuchâtel, ainsi que le conseil d'administration de Neuchâtel Vins et Terroirs. C'est tout juste ?
C'est tout juste.
Merci beaucoup. À ses côtés, Jérémy Fornet, professeur assistant à l'université de Neuchâtel, chercheur à l'Institut d'ethnologie, il étudie le changement dans le domaine agricole et alimentaire. Auteur d'une thèse de doctorat sur l'évolution de la politique agricole suisse, il dirige actuellement un projet dans le cadre du PNR 69, le projet national de recherche 69, qui explore les diverses réponses apportées aux problèmes environnementaux liés à l'agriculture et les logiques de gouvernance qu'elle mobilise. Il a été l'un des initiateurs d'un récent colloque tenu à Neuchâtel appelé « Food Utopia pour une alimentation plus durable ». C'était, je crois, au mois de juin. Voilà. J'ai aussi tout juste.
Presque.
Presque. Vous voudriez préciser ?
Je ne dirigeais pas le...
Attendez, je ne sais pas que je vais... Est-ce que ça fonctionne déjà ? Oui. Donc, je dois reconnaître que je ne dirigeais pas le projet lié au PNR 69, qui est donc le programme national de recherche. C'était Marion Frézia, ma collègue à l'Institut d'anthropologie, où on s'est intéressé à l'agriculture contractuelle de proximité, qui fait peut-être un peu partie de cette nébuleuse d'agriculture urbaine. Le projet que vous mentionnez, c'est le projet actuel que je dirige effectivement, mais qui ne fait pas partie du PNR 69. Voilà.
On a vrai de cette confusion. Vous voudriez nous dire.
C'est pas grave.
Vous voudriez nous parler du projet PNR 69 également ? Enfin, nous dire en deux mots.
Alors, oui, peut-être rapidement, j'ai déjà dit, donc, il concernait l'agriculture contractuelle de proximité, autrement dit les paniers bio, comme on les connaît plus facilement. Voilà. Ah, c'est mieux, oui. Et donc là, on était une petite équipe avec des petits moyens, mais on a participé grâce à ce projet sur l'agriculture contractuelle de proximité à un programme national de recherche qui s'intéresse de manière beaucoup plus ambitieuse à la durabilité et la santé finalement dans notre système alimentaire suisse. Donc c'était assez intéressant aussi d'engager le débat avec des nutritionnistes, avec des agronomes, avec des spécialistes de la santé publique ou comme ça, autour de notre système alimentaire suisse. Voilà.
Très bien, je vous remercie de cette précision. Désolé pour la confusion. Voilà, et enfin, Vincent Després, formé dans l'architecture du paysage, Vincent Després a débuté sa carrière au service des parcs et promenades de Neuchâtel, avant de quitter la région pour l'enseignement. Après 22 ans passés à la Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, la EPIA, en tant que chef de filière, il a décidé de revenir aux sources, à la tête du service des parcs et promenades de la ville de Neuchâtel, cette fois en tant que chef de service, lorsque l'occasion s'est présentée, il y a tout juste un an. Monsieur Després, qui n'est pas seulement responsable du fleurissement en ville, mais qui collabore étroitement avec l'urbanisme pour penser le paysage dans sa totalité, nous dira comment les potagers urbains et autres projets d'agriculture alternative peuvent prendre place dans une ville comme Neuchâtel. Alors voilà pour la présentation des intervenants. Je voudrais qu'on débute directement avec Jérémy Fornet pour une première question. Le jardin urbain, on l'a dit brièvement, l'introduction n'est pas une nouveauté, donc ils ont toujours existé dans les villes, hors des murs, mais aussi dans les murs des cités du Moyen-Âge. Plus récemment, il y avait ces jardins familiaux, ces petites parcelles individuelles, enfin, qui existent encore pour certaines, avec souvent une cabane dans un coin. Qu'est-ce qu'il a de spécifique, le jardin potager urbain du XXIe siècle ?
Alors, comme première grande différence, je dirais, si on va se limiter à la comparaison avec les jardins familiaux, si vous êtes d'accord, je laisserai les cultures médiévales de côté pour ce soir, même si c'est effectivement une comparaison intéressante, qui nous rappelle finalement que l'alimentation et la ville ont toujours eu des interactions sous n'importe quel finalement régime que ce soit. Je pense que la première différence, d'un point de vue en tout cas justement des sciences sociales, c'est la dimension collective. Le jardin potager familial tel qu'on le connaissait était une sorte de morcellement d'un espace urbain en petits lots de pain privés avec des barrières autour si possible. Enfin, j'exagère un peu le trait, mais on avait quelque chose de très individualiste dans la question qui était lié aux origines à une politique, j'ai envie de dire, hygiéniste. Hein. Il s'agissait de canaliser les classes ouvrières, de les réancrer dans le sol par la production de légumes, leur donner accès aussi à une alimentation saine. Donc il y avait une volonté de politique publique hygiéniste, hein, d'améliorer la condition l'organisation des ouvriers urbains, quelque part. Et là, finalement, avec les jardins potagers urbains qu'on connaît aujourd'hui, on a un mouvement beaucoup plus... comme on dit en bon français, bottom-up, hein, qui est né de la société civile. Finalement, ce n'est pas tellement les autorités qui ont décidé qu'il fallait à nouveau cultiver dans le sein des villes, c'est des citoyens, des gens qui se sont réunis et qui ont fait ça en groupe en général, parce que c'est beaucoup plus facile d'être un groupe pour trouver déjà un terrain. Il y a un côté très pragmatique à ça, je ne dis pas que c'est uniquement un idéal très collectiviste, il y a aussi beaucoup de motivation individuelle dans cet engagement-là. Et finalement, une autre dimension, c'est peut-être le côté un peu militant, qui n'est pas systématique. C'est pas tous les gens qui s'engagent dans ces mouvements-là. Je peut-être réunis un peu la thématique agriculture urbaine de manière plus large, sous ces différentes formes. Il y a une manière de passer à une forme de militance par l'action. Il ne s'agit pas de s'engager forcément politiquement sur la place publique à travers les réseaux classiques de la politique publique, mais de dire on veut induire un changement, puis on va commencer par faire les choses différemment, que ce soit pour notre propre bénéfice, avoir des légumes sains ou tout ça, mais aussi en espérant que ça participe à un mouvement plus large. Je pense que là, on a deux éléments qui posent les bases d'une grande différence, où on peut peut-être souligner alors où il y a convergence, il me semble, peut-être d'un niveau plus idéologique quelque part, c'est cette idée que travailler la terre, ça va nous réancrer avec des vraies valeurs. Hein, que ce soit d'un point de vue politique public, comme je le disais avec les jardins ouvriers, ou d'un point de vue plus mouvements sociaux, on a cette idée que retourner à la terre, finalement, c'est se réancrer, c'est reprendre contact avec la réalité, se déconnecter d'une forme de perversion urbaine, on pourrait dire. Et ça, c'est assez intéressant.
Peut-être que maintenant, je vous pose la question à vous, Yann Hughley. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce phénomène grandissant que vient de décrire Jérémy Fornet, de ces citadins qui veulent retourner à la terre, qui s'assemblent, qui ont des initiatives communes, qui ont envie de faire, au fond, de l'agriculture, vous qui êtes, au fond, dans le milieu, comment est-ce que vous voyez ça comme une lubie de citadins en mal de retour à la terre? Ou bien une alternative peut-être crédible, en tout cas pour ce qui est d'une autoproduction locale en petite quantité. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, j'en pense que du bien. Non, je veux dire que effectivement, on ressent aussi au niveau de la formation agricole actuellement beaucoup de gens qui viennent se former, partie CFC agricole, qui sont pas du tout, qui ont pas du tout d'origine du monde agricole, qui n'ont pas de ferme, qui ne savent pas entre guillemets comment ou potentiellement est-ce qu'ils vont s'installer ou pas. Donc, on sent qu'il y a une dynamique qui est différente d'il y a 20 ans en arrière. Il y a effectivement, comme vous l'avez expliqué, c'est un petit peu ce retour aux sources, ce retour un petit peu à la terre. On le constate aussi au niveau du monde agricole. Hein, je dirais, il y a des générations de parents quittant plus de 50 ou entre 50 et 60 ans, où c'est que le fils n'avait jamais pensé à reprendre le domaine. Et puis à 30 ans, avec une expérience de vie, avec finalement des conditions de travail qui sont difficiles dans tous les métiers, il faut être cohérent, finalement voit une opportunité de faire peut-être différemment l'agriculture, par de la vente directe, par des actions un peu différentes, ce qui fait que tout d'un coup, ces jeunes qui ne se destinaient pas finalement à reprendre une exploitation s'investissent et puis s'engagent là-dedans. Au niveau de la problématique de la terre, c'est vrai qu'on a, j'ai déjà participé à quelques cafés scientifiques, on se rend compte effectivement que la disponibilité pour le terrain, bon, peut-être moins dans une zone peut-être urbaine, mais quoique Neuchâtel, si on prend certains secteurs, on est vite en crainte de la zone agricole, et il faut dire que la zone agricole, elle est soumise à une législation qui est très fermée, il faut être cohérent, elle est accessible effectivement en priorité aux exploitants qui sont déjà installés, ou qui jouissent d'une entreprise agricole, enfin je vous laisse les termes spécifiques de côté. Donc on se rend compte qu'il y a une montée d'un côté, il y a une envie de travailler, de faire quelque chose. Et je pense que c'est vraiment de bon augure que dans les villes, une sensibilité entre guillemets, à l'alimentation, finalement reprendre un peu, hein, vous parliez avant de sécurité alimentaire, mais finalement, on s'est rendu compte aussi, avec les quelques scandales qu'on a pu voir, par exemple les lasagnes, ou quand on voit que la viande fait le tour du monde avant d'arriver dans nos assiettes, on commence un petit peu à se poser des questions, et puis on peut logiquement se retourner peut-être vers une agriculture de proximité locale, moyennant de savoir où sont produits nos légumes ou notre viande, et puis finalement dans quelles conditions, et puis avec quelles personnes on travaille.
Vous parliez du cas de Neuchâtel. On a vu cet été pousser des tas de légumes et de choses en pleine ville. Peut-être que je me tourne vers Vincent Després. Comment, au fond, vous qui êtes architecte du paysage, qui êtes responsable des arbres, des massifs floraux dans des jardins quand même assez prestigieux, vous avez été responsable du fleurissement d'un tout autre type qui est au fond des choses alimentaires. Est-ce que vous avez eu des retours à ce sujet? Comment est-ce que au fond on a perçu est-ce que les gens ont perçu cette action cette année en ville de Neuchâtel de faire pousser du maïs au jardin anglais ou des tomates du Pérou?
Effectivement. Plutôt bien. Mais juste avant de répondre plus précisément à votre question, je voulais peut-être rebondir aussi sur la question qui a été posée à mes deux collègues à côté. La première, c'est vrai qu'on parle de potager urbain. Moi, j'aime bien parler de jardin partagé parce que je trouve que s'il y a un effet qui est vraiment positif dans cette prise de conscience de cultiver quelque chose, de remettre la main à la terre, de savoir d'où viennent les produits qu'on consomme, les circuits courts, enfin tout ce qui a déjà été dit sur la sécurité alimentaire, je trouve que ces jardins partagés, ils ont une haute valeur ajoutée sociale et que ça permet justement à des gens de se croiser, de se côtoyer, des gens qui habitaient dans un même immeuble, qui se croisaient parfois même pas, qui parfois dans la cage d'escalier, qui là ont un projet commun. Et puis on en parlera tout à l'heure, on le voit dans des projets comme celui de l'ancien golf de Pierre Rabot par exemple. Je trouve que c'est pour moi un des effets les plus positifs parce qu'on pourra peut-être parler aussi de la sécurité alimentaire. Je dévie un petit peu de votre question, mais je ne suis pas toujours convaincu qu'en ville, on arrive réellement à produire des légumes sains. Ça pose quand même des questions. J'ai un exemple, par exemple, on a parlé beaucoup aussi des ruchers urbains. Il se trouve que malheureusement aujourd'hui, par rapport à l'agriculture, on met des ruches en ville et puis il se trouve que c'est un bon moyen de pouvoir développer des abeilles parce qu'à la campagne, elles meurent. Pour différents phénomènes, on n'est pas là pour en parler. Mais j'ai un exemple que j'ai connu sur le toit de l'école où je travaillais avant, à l'EPIA, où on avait des ruches urbains, et on s'est rendu compte que le miel qu'on produisait était juste inconsommable parce que chargé en métaux lourds et en autres poussières que la ville génère dans son activité. Donc je pense qu'il faut garder à l'esprit quand même ce phénomène-là et pas forcément idéaliser à tout craint le fait de produire quelque chose de sain en ville. Je pense que je dis pas que c'est chronique d'un problème annoncé, mais
est-ce que les fenouilles et les tomates qu'on a mangées, qui étaient en libre accès au jardin du Pérou, étaient comestibles ou...
Alors j'y viens, votre question. Rassurez-vous, je ne l'ai pas complètement oublié. Bien sûr qu'il l'était. En tout cas, on n'a pas eu vent de problèmes gastriques ou autre intoxication. À titre d'exemple, même en dehors des gens qui sont venus se servir, des habitants, des visiteurs, on peut dire qu'on a rassasié bon nombre de rats qui étaient dans les enrochements sur les berges et qui ont trouvé, notamment sur l'esplanade du Mont-Blanc, un garde-manger assez sympathique et proche, facilement accessible. Pour revenir à votre question, effectivement, la population a bien apprécié cette démarche qu'on a développée cette année. On aime bien au niveau du service des parcs et promenades pour l'aspect fleurissement qui n'est pas le seul de nos domaines d'activité, mais s'inscrire dans des thèmes d'actualité et puis rebondir sur Neuchâtel-Ville-du-Gou, c'était assez facile quelque part et on n'a pas eu trop de mal à s'inscrire dans cette démarche en choisissant justement cette thématique et en utilisant des plantes comestibles au sens large du terme dans les différents massifs. Vous avez cité le palais du Pérou, mais on peut aussi citer le jardin anglais, l'esplanade du Mont-Blanc que je viens de nommer par rapport au garde-manger pour les rats, les quais Osterwald aussi, tous ces espaces ont permis de mixer à la fois des plantes à valeur décorative, des fleurs, et un certain nombre de plantes comestibles. Pour ceux qui sont un peu plus observateurs puis qui ont déambulé dans la ville, vous avez vu aussi que les fontaines étaient cette année plantées avec des côtes de bêtes rouges, comme on peut voir sur la brochure de cette conférence. Et puis, il y a eu aussi ces actions dans les quartiers. sur l'initiative d'associations de quartier, des écoles et autres, avec la mise en place de ces bacs, des palettes CFF qui sont facilement déplaçables, qu'on met en place, qu'on renlève, qui permet en plus d'avoir des jardins potagers mobiles et qui permettent de répondre comme ça simplement aussi et rapidement à des demandes, des besoins d'habitants dans les quartiers. Le seul petit bémol qu'on a rencontré, puis qui nous a nécessité, une petite mesure corrective, c'était malheureusement, peut-être par manque d'information, les personnes, les utilisateurs, les passants cueillaient bien souvent les légumes avant leur stade de maturation. Et manger une tomate verte, c'est pas très très bon. C'était un peu dommage de la cueillir verte. On a eu plein, on a eu comme ça des légumes qui ont été cueillis avant leur stade de maturation. Le but étant justement que les gens se servent. C'était un garde-manger qu'on leur mettait à disposition. Certaines personnes trouvaient bizarre qu'on puisse aller comme ça prélever tantôt des herbes condimentaires ou des légumes, mais c'était là pour ça. Alors, on a trouvé une solution. Je n'ai pas pu mesurer si elle avait été vraiment intéressante. C'était de cueillir, nous, avec nos jardiniers, les personnes du service, les légumes à un bon stade de maturité, et puis de les mettre à disposition au Palais du Pérou. On avait mis des caisses, et puis les gens pouvaient se servir de légumes. J'ai toujours vu ces caisses vides, donc j'en ai déduit qu'elles étaient effectivement utilisées et que les gens venaient se servir de légumes qui étaient à un stade correct pour être consommés.
À ce propos, Jérémy Fornet, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative mise en place par une collectivité publique, au fond une initiative un peu par le haut? Vous, tout à l'heure, vous disiez que ces jardins potagers urbains, ils avaient une dimension à la fois collective mais aussi spontanée de groupes militants, ou du moins de collectifs. Ben voilà, ce sont des idées venues d'en bas. Est-ce que c'est utile que les pouvoirs publics se chapeautent, voire lancent? Est-ce que c'est utile à la prise de conscience? Ou est-ce qu'au fond il vaut mieux que ce soit un petit peu spontané, que ça en reste à un autre niveau? Est-ce que c'est utile que les pouvoirs publics organisent tout cela?
Alors, votre question présuppose une première question, à savoir si ces jardins urbains ou ces jardins partagés justement sont utiles, point final. Parce que s'ils ne le sont pas, alors c'est pas utile d'avoir un soutien public. Je pense personnellement, mais aussi suite aux recherches qu'on a pu mener sur des questions proches, c'était pas directement sur le potager urbain, qu'il y a une vraie utilité, mais on va peut-être y revenir plus tard pour la détailler. Et donc finalement, le soutien de l'État, Il est le bienvenu, il est même nécessaire à partir d'un moment, c'est qu'on a des choses qui ont émergé, qui se sont auto-créées quelque part en partie, mais qui rencontrent un système. On a évoqué le droit foncier rural par exemple, on a toutes des structures dans nos sociétés qui sont là et qui ont leur catégorie. On sait ce que c'est une exploitation agricole, par exemple. Par contre, qu'est-ce que c'est une association qui veut produire elle-même des légumes, plus les partager après entre différents membres sur un système contractuel d'une année, et comme ça, ça rentre pas dans les cases. Et du coup, par rapport à ces décalages-là, tout d'un coup, on a des choses qui vont coincer. Et que ce soit en termes d'accès au sol, vous l'aviez évoqué, Monsieur Hugli, que ce soit en termes de reconnaissance publique aussi, comme étant une forme d'agriculture qui mérite d'exister, finalement, d'être pas la seule, mais une forme qui mérite d'exister parmi d'autres. Donc tout ce soutien, finalement, par des acteurs publics, même si c'est à une échelle très locale, c'est pas ça qui va changer le cadre légal suisse, mais ça donne une présence, ça donne une légitimité aussi, mais aussi une forme de reconnaissance, de dire que tiens, on s'intéresse à ce qui se passe. Et je pense que typiquement dans ce genre d'initiative où on a une forme de mise à disposition ou de participation temporaire, on est sur la bonne voie plutôt que... Enfin, il ne s'agit pas tellement de arriver avec un État qui va dire « Bon, maintenant, on prend en main ces États, on va réorganiser tout ça. » Enfin, je pense que là, il y aurait un côté, quelque part, d'inversion de la vapeur et qui changerait complètement ce qui se passe là, mais maintenant une contribution. Et je pense qu'on pourrait, on a vu certaines aussi villes qui ont développé des politiques alimentaires quelque part à l'échelle locale, beaucoup, enfin encore plus ambitieuses finalement que ce qui s'est passé là, qui est à dire à travers tous les systèmes de restauration publique par exemple, essayer soit de se retourner vers une agriculture très localisée mais professionnelle, soit aussi d'avoir des partenariats avec des structures plus alternatives justement pour essayer de reconnecter une ville avec finalement une production alimentaire toujours partielle. On n'est pas dans une société où on va manger que ce qu'on produit dans la ville, mais quand même une reconnexion finalement entre une partie du système alimentaire et la ville elle-même, finalement. Et donc, dans ce sens-là, il y a même encore des étapes supplémentaires qui pourraient être faites et qui passent, comme je l'ai dit, soit par ces partenariats, peut-être, mais aussi par un travail de soutien, de promotion, de mise à disposition de certains terrains, par exemple, comme vous l'avez fait ici à Neuchâtel, de différentes manières, que ce soit temporaire ou plus à plus long terme. Donc il y a différents comme ça axes où effectivement l'action publique est nécessaire finalement. Oui.
Mais cette action publique au fond, Yann Hughley, est-ce qu'elle apparaît pas comme une concurrence par rapport à la filière agricole traditionnelle? Est-ce que c'est pas au fond ce soutien, vous le trouvez pas au fond dangereux pour la branche en quelque sorte à long terme?
Alors, je pense pas du tout. Je pense que c'est un soutien complémentaire. C'est une agriculture, comme ça a été dit, qui va pas assumer à elle seule la sécurité alimentaire du pays, mais par contre qui permet effectivement d'alimenter, d'avoir aussi une connaissance finalement de tous les circuits, de connaître aussi finalement les difficultés que c'est parfois d'avoir des légumes de toujours la même longueur, la même largeur, et puis en faisant, on apprend aussi que des fois, ma foi, nos légumes ont été mangés par un insecte ou bien par un individu X ou Y ou par les rats, ce qui fait que, ben, ma foi, on n'a pas toujours la disponibilité dans l'alimentation, elle est effectivement issue de la météo ou d'autres conditions cadres, mais l'environnement dans lequel on se situe, on voit que l'agriculture, ce n'est pas un modèle de science exacte. Et par rapport à ça, ça demande à être traité d'une manière spécifique. Je pense que c'est aussi pour ça que les pouvoirs publics mettent des moyens financiers ou en tous les cas à travers une imposition et puis des prestations non marchandes du monde agricole qui sont rémunérées pour maintenir tout ce qui est fait, notamment l'occupation décentralisée du territoire. Si on prend des régions, Vallée de la Brévine, c'est une carte de visite magnifique pour le canton, pour la région du Haut avec le lac des Taillères, mais s'il n'y avait pas d'agriculture dans ce secteur-là, on aurait quand même des difficultés à maintenir un habitat dans ces régions. Donc je crois que c'est un tout, c'est trouver les systèmes qui sont complémentaires, et puis ces systèmes de jardins potagers sont une activité à part entière. En ayant rencontré quelques étudiants, et il y a eu quand même des initiatives d'associations, comme ça a été dit, qu'on fonctionnait, hein. Certains sont partis dans du pressage de jus de pomme, certains sont partis dans de la production de maraîchage, avec finalement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de mètres carrés pour pouvoir assumer finalement un revenu potentiellement décent pour quelqu'un qui s'installerait. Donc là, on a essayé de favoriser des collaborations, des exploitations agricoles déjà installées, et puis quelqu'un maraîcher qui avait une formation peut-être de maraîchage, mais qui n'avait pas la possibilité de trouver de terrain, une collaboration sous une forme associative, et je pense que ça, c'est des initiatives qu'on peut, en tous les cas, la Chambre d'agriculture est prête à entre guillemets, trouver les terrains d'entente et de mettre finalement en relation les deux personnes. C'est vrai que produire des légumes, c'est pas un métier si facile que ça, et il faut dire que dans les références qu'on a actuellement dans les exploitations agricoles du canton, on a plutôt deux visions. Une vision, c'est qu'on est plutôt sur la surface herbagère, hein. Pour rappel, le canton, c'est presque trois quarts en surface herbagère, donc avec une vocation de valorisation de l'herbe à travers des bovins, chevaux ou chèvres ou ce qu'on veut. Et puis le restant, ben, c'est en partie de la vigne avec une qualité de vin quand même, si j'ose me permettre, assez intéressante en tous les cas ces dernières années en termes de qualité. Et puis pour le reste, ben, c'est des grandes cultures qui se partagent avec un secteur au Val-de-Ruc et qu'on parle souvent le grenier du canton, qui est plutôt des terrains à, on va dire, à blé, pour être clair, donc faire de la farine. Et puis le restant sur le littoral qui se différencie en plusieurs cultures. Donc on a développé une mécanisation. Alors des fois qui peut choquer, hein, aussi, on se rend compte des fois qu'en discutant avec monsieur, madame, tout le monde, quand ils voient passer ces machines, ce matériel, ça peut se poser certaines questions, mais en tous les cas, l'évolution structurelle était importante dans le secteur agricole, et puis demande pour cultiver les surfaces à disposition du matériel un peu plus adapté. Il n'empêche qu'il y a des possibilités, je reviens, parce que les marchés, avant on avait beaucoup de maraîchage sur la région Marin et Saint-Blaise, et puis maintenant on voit qu'on n'en a peut-être plus qu'un dans la région de Thiel, qui s'est réinstallée après coup, simplement parce que effectivement, on a le problème qu'il faut fournir ces denrées quand on est dans des volumes conséquents. C'était le choix qui avait été fait, ben, travailler avec la grande distribution. Et puis la grande distribution, elle travaille tout simplement avec des calibrages. Et puis si vous n'êtes pas le premier sur le marché, comme le Zeeland est souvent un peu avant Neuchâtel, et ben, entre guillemets, ça a créé des conditions où c'est que finalement les gens ont plutôt levé le pied et puis se sont un petit peu réadaptés sur d'autres productions.
Mais donc ça veut dire en quelque sorte que les paysans, enfin la filière agricole traditionnelle reste au fond un petit peu condamnée à faire du productivisme. Au fond, c'est un petit peu ça. Je vous demandais de façon plus générale comment vous voyez, enfin l'opinion publique a, me semble-t-il, de plus en plus une image assez négative de la production agricole, que ce soit au niveau de l'élevage, que ce soit à cause des pesticides dans les champs, de ces machines dont vous parliez qui sont adaptées au fond à une façon de produire rapide et efficace. Et puis on a l'impression qu'au final, quand on va au supermarché, les gens sont déçus du goût des tomates, des légumes, des fruits. Comment vous, au fond, vous répondez à ce faisceau de critiques qui peut-être engendre justement de nouvelles initiatives?
Alors je dirais que le faisceau de critique, bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques cas ces derniers temps, il y a quand même pas mal d'initiatives qui à mon sens, si on prend l'exemple d'interdire les produits phytosanitaires de synthèse, vont à mon sens dans un bon sens, simplement ils sont peut-être un petit peu vite. Il faut que le monde agricole puisse s'adapter. Tout le monde a ses prérogatives finalement sur le monde agricole, hein. On le voit, l'agriculteur, il est souvent visible dans toutes les actions qu'il fait chaque jour, hein. Donc si il fait une intervention, quelle qu'elle soit, elle est visible, elle est vue par les marcheurs, elle est vue par les citoyens, elle est vue par beaucoup de monde. Donc ça demande qu'elle soit expliquée. En tous les cas, ce qu'on peut voir quand même, et puis on oublie des fois un petit peu vite, c'est qu'on parle souvent d'agriculture très intensive, très polluante. Alors je suis d'accord sur ces prérogatives quand on les prend de manière internationale. Lorsqu'on analyse et puis qu'on fait quand même un zoom sur certains secteurs, on peut quand même montrer des exemples concrets en Suisse où c'est qu'il y a eu quand même une évolution depuis les années 80, 80, 90 jusqu'à nos jours où c'est qu'on est quand même dans une vision de production durable, peut-être pas encore biologique, mais on y tend. Et je pense que c'est dans tout système, quand vous imposez ou quand l'État veut imposer un système, c'est pas forcément là qu'on atteint les meilleurs objectifs. Je pense que c'est dans une évolution logique des choses. Le consommateur est aussi responsable finalement, hein, parce que quand on discute, tout le monde, je reprenais les propos qui étaient tenus par les enquêtes de la COP, qui disaient qu'à chaque sortie de magasin, ils analysaient quelle est votre approche au niveau de l'alimentaire, qu'est-ce que vous regardez, c'est quoi les priorités, c'est le bien-être des animaux, c'est produits naturels, c'est détention des animaux au maximum, pas de produits phytosanitaires, ainsi de suite. Et puis finalement, dans les fêtes, ça se traduit par quoi? Ben, vous consommez quoi? Du bio, alors. Et puis effectivement, dans les fêtes, souvent, quand on regarde, donc dans les propos, oui, et dans les fêtes, dans l'action, ben, on se constate encore que les gens prennent aussi des fois au meilleur marché. Je juge pas, hein, simplement, c'est des fois des réalités économiques qui sont que finalement le budget ou le budget ménage ou ce qui est encore à disposition de la ménagère, c'est vraiment des fois sur la partie alimentaire où c'est qu'on peut peut-être encore compresser pour X ou Y raison. Mais on constate de nouveau qu'il y a une sensibilité qui est là, qui s'intègre. Je crois que dans les exemples aussi qu'on peut reprendre, et ce qui est important dans les collectivités, moi ce que je dis, ce qui est important et ce qui serait prioritaire, c'est d'intégrer quand même une partie de formation. On a un modèle d'école à la ferme, à mon sens, dans la jeune génération, finalement, les futurs consommateurs, les 4 ans, 8 ans, 12 ans, je pense que c'est ces jeunes, ces enfants qui peuvent aussi un petit peu éduquer des fois leurs parents, peut-être en expliquant que finalement, le lait, il ne vient pas d'une brique, et puis que les légumes, ils ne tombent pas du ciel, et puis qu'ils ont telle ou telle forme, parce que des fois, les conditions météo ou les contraintes ont fait que, ainsi de suite. Et je pense que là, on a une sensibilité on a sensibilisé le Conseil fédéral pour dire qu'il était peut-être important de mettre un petit peu ces démarches au programme dans le cadre des cours d'environnement. Et je pense que là, on essaie, donc on met beaucoup de pression sur Neuchâtel. On a de la chance parce qu'on a des prestataires qui s'engagent déjà beaucoup, qui reçoivent beaucoup de classes. Mais je pense que néanmoins, là, il y a encore un travail à faire. Je pense que la ville de Neuchâtel a aussi un petit peu son intention peut-être. Sur la ville de La Chaux-de-Fonds, je dirais que ça marche bien, dans d'autres secteurs un petit peu moins, mais je pense que là ça peut être une réponse pour quand même expliquer l'alimentation, finalement la base d'une certaine alimentation et d'une proximité, et puis là, comment se passent les choses.
Jérémy Fornet, à ce propos, justement, je devine un peu votre réponse, mais est-ce que l'école devrait effectivement inculquer ces valeurs aux enfants? Est-ce qu'il faudrait que même leur enseigner à planter des légumes? Est-ce que ça doit faire partie du cursus scolaire, à votre avis?
Pourquoi pas? C'est de toute façon positif, mais je pense qu'il y a aussi d'autres moyens que l'école à proprement parler. L'école ne peut pas tout faire. On a tendance à attendre beaucoup de choses de l'école de nos jours. Mais indépendamment de ça, moi j'aimerais juste revenir sur cette équation en fait, qu'on fait très souvent. Souvent quand on parle maintenant de durabilité de l'alimentation, on dit il y a les producteurs qui font des cochonneries éventuellement, ou bien il y a les consommateurs qui ne sont pas responsables. Puis finalement, c'est comme si on avait des questions de responsabilité qu'à ces deux endroits-là. Attends, il y a tout un système, il y a une multitude d'acteurs qui sont présents, qui devraient chacun avoir leur part de responsabilité là-dedans. Dire non, c'est la demande du consommateur, je m'excuse, c'est un peu facile, quelque part. Si on est un consommateur et qu'on doit, à chaque fois qu'on va au magasin, choisir de mettre 3 francs de plus pour des carottes qui soient sans pesticides, et que c'est un choix continu et qu'on doit répéter à chaque fois, il y a un épuisement aussi. Et ça a été étudié aussi, cette espèce finalement de lassitude. On ne peut pas toujours être sollicité en tant que consommateur comme étant le dernier maillon et donc le responsable de tout le reste de la chaîne, finalement, parce que c'est nous qui, soi-disant, détenons les clés de la demande. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de fausses vérités derrière cette manière de définir le système économique qu'on a dans le monde agricole. C'est très réducteur et surtout, ça permet à certains acteurs de se laver les mains assez facilement. Et peut-être ce qui était intéressant, là je reviens, je m'excuse, mais c'est parce que je connais mieux que les jardins potagers urbains partagés eux-mêmes, mais ce mouvement qui est similaire à l'agriculture contractuelle de proximité, finalement qui s'est aussi dans certains cas développé, notamment ici à Neuchâtel avec Rage de Verre, dans des espaces urbains. Ce qui est très intéressant, c'est que là on a des consommateurs qui nous disaient, quand on discutait avec eux, mais finalement... Oui, on se met des contraintes supplémentaires, on s'engage sur une année, on va avoir pas le choix sur les aliments qu'on va avoir dans ce panier-là, vu que c'est en fonction de la saison, c'est en fonction de la production et comme ça, c'est pas un choix personnel du contenu du panier. Mais qu'ils disaient, mais finalement, certains d'entre eux, en tout cas, soulignaient le fait que finalement, c'est peut-être tout aussi facile. Parce que ça permet de faire un choix une fois pour toutes. Oui, je m'engage pour une année et j'ai pas besoin de chaque fois que j'achète des légumes de refaire ce choix. Alors, est-ce que cette fois je remets un franc de plus ou pas? Est-ce que je cède aux sirènes de la facilité? Je vais au supermarché plutôt qu'au marché. Enfin, des choses comme ça. Et donc, on voit bien qu'il y a dans ces nouvelles choses et des manières de reposer les questions différemment. C'est comme la question du prix aussi. On a une autre équation qui s'est imposée dans la vision du système agricole. C'est que de facto, si c'est plus durable, c'est plus cher. Et là, on se rend bien compte que c'est aussi lié à un système qui fixe le prix d'une manière qui n'intègre pas certains coûts, hein, notamment les coûts environnementaux, les coûts sociaux aussi. Hein. Et finalement, il y a dans ces pratiques-là, il y a peut-être les potagers urbains, ils posent l'équation différemment. Ils disent finalement, si je le fais pousser moi-même, c'est encore moins cher. Pas si on compte son travail, bien sûr, mais si en termes d'argent. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une manière d'avoir de la nourriture bon marché, une solution. C'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, il y a des questionnements qui se posent par rapport à ces espèces de fausses évidences en termes de, notamment, de comment fonctionne justement notre système alimentaire. Et pour dire, pour pouvoir faire ça, il faut un certain degré de connaissance, mais c'est aussi en participant qu'on le développe. Et donc, c'est pas, moi, je dis pas, le problème de nos jours, c'est pas tellement, comme le disait très justement Monsieur Hugli, le problème c'est pas de savoir, le problème c'est de réussir à trouver des moyens de le faire. Donc la plupart des gens ont connaissance, il y a peut-être certaines minorités, mais on grandit souvent le jeune qui sait pas que le lait vient de la brique, en passant par la vache. voilà, joli lapsus, que le lait vient de la vache, voilà, ça vient de la brique. Mais je pense que justement, on a beaucoup, là, il y a beaucoup de choses qui changent quand même. On n'est plus dans l'ère de l'agriculture et de l'alimentation que industrielle. Quand j'étais jeune, un des aliments typiques de la famille, c'était le ravioli en boîte. Qui c'est qui mange encore des raviolis en boîte aujourd'hui? Mais plus personne. Donc il y a quand même tout un changement là qui s'est déjà passé. Maintenant, il y a des moyens d'action qui restent à trouver, je pense.
Donc si on vous comprend bien, il faut essayer de dépasser ce poncif consistant à dire alors si on veut de la qualité, on doit mettre plus cher. Et puis donc, voilà, pour certains ménages, bon, on n'y arrivera pas, donc on se retranche sur les produits.
Oui, bon marché. Et non, c'est-à-dire que pas forcément le prendre comme un inévitable et comme c'est, finalement il y a, parce que sinon on arrive toujours à l'idée, c'est une question de privilège, quoi. Finalement, c'est que les riches qui pourront se payer du bio et puis du local et tout ça, et les autres ils mangeront du chenil qui est importé et qui a un impact environnemental et social énorme. Et donc, je pense qu'on doit sortir de cette logique-là. Sinon. Tout cela, c'est perdu d'avance, quelque part. Donc, par contre, on est quand même le pays, on le rappelle, les lobbies agricoles le rappellent à volonté, ils ont raison. Mais finalement, on est un des pays où les ménages dépensent proportionnellement le moins pour s'alimenter par rapport à nos voisins d'Europe. Ça, c'est je suis pas très hard fact, normalement, en tant qu'anthropologue, mais c'est quand même des choses qui sont intéressantes à avoir en tête. C'est pas qu'une question de pouvoir d'achat non plus, c'est pas qu'une question de pouvoir mettre l'argent, c'est plus complexe que ça.
Donc une des façons notamment de dépasser l'équation, de ne pas forcément se ruiner en achetant bio, c'est peut-être justement de participer et puis de se lancer dans ces potages urbains. Vincent Després, est-ce qu'on pourrait dire juste quelques mots sur ces potagers urbains qui ont été initiés à Pierre-Abeau et sur leur impact sur la population, sur au fond, l'intérêt qu'ils ont suscité.
Alors, comme tout à l'heure, je vais commencer peut-être par, avant de répondre à votre question, pour rebondir sur deux, trois éléments de cette année notamment. Je pense que c'est illusoire de se dire que le jardin urbain, le jardin partagé, va permettre une autosuffisance alimentaire d'une famille. Par contre, je pense, peut-être que je rêve, je suis un doux rêveur, un utopiste, mais je pense que ça peut peut-être donner l'envie de consommer autrement et puis de se tourner après vers une autre forme de production, comme ce que vous avez évoqué, l'agriculture contractuelle. C'est-à-dire qu'il y a quand même moyen d'obtenir, à proximité de chez soi, des produits différents qui permettent de faire vivre des agriculteurs de proximité. Moi, aujourd'hui, je trouve que c'est une catastrophe. Je pense que vous devez tous le partager ici, de voir que dans notre pays, un agriculteur n'arrive plus à vivre correctement du fruit de son travail, qui doit être, d'une manière ou d'une autre, subventionné. Et je pense que ça, c'est un phénomène qui est quand même assez... c'est pas qu'en Suisse, c'est un peu partout en Europe, mais c'est quelque chose qui est assez préoccupant. Donc si on peut développer une autre forme d'agriculture qui pourrait justement permettre aux professionnels de vivre un peu mieux et un peu plus décemment de leur activité, et en même temps nourrir un peu mieux la population, les populations, on y verrait un peu plus clair et on serait peut-être un petit peu plus à l'aise par rapport à ça. Votre question?
C'était juste pour ancrer maintenant le sujet de la participation, au fond, avec
l'exemple de Pierre-Abeau.
Ok.
Alors, cet exemple, bon, peut-être un petit peu de la genèse de ce laboratoire, qu'on peut dire, parce qu'à l'échelle de la ville, si jusqu'à présent, on avait des petites actions ponctuelles dans les quartiers, dans les cours d'école, où on nous demandait de mettre en place des bacs, des éléments comme ça, ponctuels. On s'était rendu compte là aussi, et puis ça rejoint une remarque de M. Glick, les gens assez rapidement se rendent compte que finalement cultiver la terre, c'est quand même un métier qui est assez dur, et puis parfois déchanté par rapport aux résultats. Il y avait là aussi parfois une douce utopie, et puis c'est vrai que quand on part, je pense notamment aux cours d'école, quand il n'y a aucune activité dans une école en juillet et août, c'est malheureusement là que les tomates mûrissent et puis qu'il faut les entretenir. Et on a eu pas mal de ces expérimentations qui se sont révélées parfois un petit peu hasardeuses, ou en tout cas pas souvent suivies d'effet, et gentiment un petit peu abandonnées. C'est pour ça qu'au niveau de la ville et du service des parcs et promenades, quand on devait répondre à des attentes des écoles, dans les cours ou dans les quartiers, des associations, on partait toujours je dirais qu'on mettait pédale douce, on allait toujours pas à pas, et puis on mettait des structures simples en place qui pouvaient être réversibles au cas où ça ne fonctionne pas forcément très très bien et qu'on puisse assez facilement revenir en arrière. Et puis si après la sauce prenait, ben là on accompagnait aussi plus concrètement et on pouvait augmenter les surfaces, mais il fallait que ça puisse être suivi d'effet. Le service mettait souvent en place des structures, mettait à disposition les plantons parfois, mais par contre après c'est les habitants, c'est les enseignants, c'est les élèves dans les écoles qui devaient tout au long de la saison entretenir, travailler ce sol. Donc on voulait quand même juste vérifier qu'il y avait réellement un répondant derrière et qu'il n'y avait pas uniquement une douce utopie. Pierre Rabot, c'est une expérimentation, on peut l'appeler quand même comme ça encore, parce que c'est la première année d'activité qui est à l'initiative de la direction de l'urbanisme, Olivier Arny, qui a passablement porté ce projet, encadré et soutenu en cela par Equiter, qui a une expérience aussi dans le domaine, qui a accompagné d'autres projets en Suisse romande qui ont souvent été couronnés de succès. Et puis au niveau de la ville, il y a différents autres services qui ont été acteurs, partenaires, qui ont permis aussi à ce projet de se développer. C'est 1 hectare, 10 000 mètres carrés de surface qui ont été mis à disposition de la population, mais pas uniquement. Les habitants du quartier principalement, mais il s'est avéré qu'il y a aussi eu des habitants d'autres coins de la ville qui se sont intéressés à cette offre et puis qui sont venus y cultiver un petit lopin de terre. Il y a un élément important, je pense, qui peut présager d'une réussite de ce projet, c'est qu'il s'appuie aussi sur des acteurs locaux qui ont des compétences. Je pense au Drop-In, qui est une association qui a pour but de réinsérer des personnes en difficulté, et puis qui cultive des légumes pour sa cuisine, parce qu'ils ont un besoin de production. Donc là, c'est des professionnels. On a aussi une association en relation avec la permaculture qui s'appelle Humus, qui est aussi un des acteurs du lieu, qui occupe une partie de ces 10 000 mètres carrés. Et puis il y a encore les incroyables comestibles qui pour le moment sont pas trop présents, mais qui quelque part participent d'une certaine manière aussi au projet. Et puis il y a les habitants qui sont arrivés là-dessus. Tout ce monde s'est fédéré autour d'une association. Et puis, il y a une belle synergie qui se développe parce que les professionnels, et je pense que c'est un élément important de la réussite de ces jardins partagés, les professionnels prodiguent des conseils, accompagnent les amateurs, les jardiniers en herbe qui, tout à coup, accèdent à une surface qu'ils peuvent cultiver et qui ont besoin d'être accompagnés pour justement éviter de faire des erreurs. On parlait des jardins familiaux tout à l'heure. Il s'avère aujourd'hui que ces jardins, c'est quasiment des sols pollués parce que on n'a pas respecté le sol, on a utilisé à outrance des pesticides, des engrais. Et puis là aussi, on peut se reposer la question de la réelle qualité des légumes qu'on produit dans ces conditions-là. Donc ces démarches, elles doivent être accompagnées, c'est important. Des gens savent, d'autres savent moins, d'autres savent pas du tout. Quand ils prennent 6 mètres carrés, 12 mètres carrés, c'est les surfaces qui sont mises à disposition de la population sur le site de Pierre Rabot. Et certains connaissent, comme je dis, mais d'autres beaucoup moins. Donc c'est, je pense, un des facteurs de réussite, c'est justement cet accompagnement par des professionnels qui donnent de leur temps, qui conseillent, qui parfois même donnent des plantons. Il y a un réel échange. Et je reviens à ce que je disais en préambule sur cette haute valeur ajoutée des jardins partagés où ça devient tout à coup une dynamique entre différents acteurs qui concourent à un même but de produire des légumes de la manière la plus saine possible. Donc ce projet, il a aussi nécessité qu'une charte soit établie de manière à ce que des règles soient respectées, entre guillemets. On va pas mettre un système policier en place, mais qu'au moins il y a un certain nombre de règles qui soient appliquées par les uns et les autres. Ne serait-ce qu'à Pierre Rabot, c'est de cultiver biologiquement les légumes. Donc ça, c'est une règle de base et tout le monde doit s'y fier. Maintenant, il y a peut-être le soir, à la tombée de la nuit, des gens qui vont utiliser des engrais chimiques ou autres pesticides et on ne le sait pas. Mais quelque part, en tout cas, on les invite à ne pas le faire. Et pour ça, ils sont encadrés et conseillés par ces professionnels qui qui sont sur place. Et je crois qu'il suffit, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, de faire un tour sur la rue Denis de Rougemont et puis de voir comment cet espace, qui était une prairie presque abandonnée, limite de l'ancien golfe Le Pierre-Abeau, s'est développé en l'espace d'une année. Et tout ce qui a poussé, tout ce qui se cultive là-haut, c'est assez intéressant. Et puis, ça permet des échanges. L'investissement de la ville à ce niveau-là, il a été... La mise en place de ces surfaces, la préparation pour partie. On a dû tirer quand même aussi une alimentation en eau pour permettre quand même aux gens d'avoir un point d'eau. Mais c'est un point d'eau, ce sont des points d'eau centrales, il n'y a pas d'arrosage, les gens doivent aller avec leur seau, avec leur bidon. C'est fait de manière assez rudimentaire. Et il me semble que les gens s'en accommodent. Ça permet de créer une belle dynamique aussi, ne serait-ce que de croiser son voisin lorsqu'on va au point d'eau remplir son arrosoir pour arroser ses légumes.
Merci pour cette description. Au fond, ça fait un petit peu rêver, parce qu'on imagine qu'à l'avenir, dans nos villes toujours plus urbanisées, on aura peut-être comme ça des espaces partagés de jardins qui permettent en tout cas de créer une partie de la production locale, à la fois les producteurs seront également des consommateurs. J'aurais voulu savoir comment vous voyez au fond la production alimentaire en 2050, chacun d'entre vous. Est-ce qu'on peut comme ça se faire rêver et se projeter dans l'avenir, ou au contraire se faire cauchemarder? Allez, quelqu'un de vous.
Je veux bien me jeter à l'eau. Peut-être pour dire que, moi, ça ne me fait pas autrement rêver, dans le sens que ce que vous décrivez, ça va aussi se passer en même temps avec des espaces urbains qui vont grandir. Vous parliez d'un, je ne sais plus lequel d'entre vous deux parlait du fameux mètre carré de terre agricole qui disparaît chaque année en Suisse. C'est pas un processus qui va se... Bon, on essaye de le contrôler au niveau de la Confédération, des cantons et comme ça, mais c'est un processus qui va continuer comme ça. Et à mon sens, on est là, si je me permets de réintroduire cette notion d'utopie alimentaire que vous mentionnez par rapport au colloque qu'on a eu au mois de juin ici à l'Université de Neuchâtel, c'est vraiment cette idée de parler d'utopie, non pas parce que c'est quelque chose qui nous fait rêver, que c'est un doux rêve, mais c'est des utopies qui existent déjà quelque part, c'est des laboratoires pour l'avenir. Ça va, mais l'agriculture de 2050 qu'on aura en Suisse, je ne sais pas du tout comment elle sera, mais ce que je pense et ce que j'espère, c'est qu'elle sera diversifiée. Elle ne sera pas que celle de l'agriculture urbaine, que celle de l'agriculture 4.0 ou que celle de l'agriculture familiale. Elle sera probablement un peu de tout ça, et tout ça aura évolué ensemble. Et c'est bien dans cette idée de participer à trouver des nouvelles solutions. On a parlé beaucoup des problèmes qu'on pouvait identifier dans le système alimentaire actuel, que ce soit pour les familles agricoles, les familles paysannes, que ce soit pour les consommateurs, pour différentes personnes. Y a des solutions qui doivent être trouvées, et c'est finalement en allant innover, en allant chercher des nouvelles choses, à travers ces deux dimensions que je trouvais très intéressantes, que, comme vous décriviez les jardins de Pierre-Abeau, qui sont à la fois le collectif, on va faire ensemble, on a besoin des autres pour le faire. Du moment qu'on est dans le collectif, on crée des nouvelles valeurs, on crée des nouveaux plateformes d'échange, des nouvelles structures, pratiques et terreaux quelque part pour inventer un nouveau futur. Et la question du savoir, parce que typiquement dans ces formes d'agriculture un peu spéciales, il y a beaucoup la question, mais où est-ce qu'on va aller chercher les connaissances qu'on a besoin pour ça, et est-ce que n'est que dans de l'expérimentation de pionniers, ou bien si on prend les systèmes officiels de savoir sur l'agriculture aujourd'hui, ils sont quand même encore très aligné dans les lignes d'une agriculture qui est héritée du XXe siècle, finalement. Le canton de Berne parle de fermer la seule école dédiée spécifiquement au bio, par exemple, en Suisse, pour des raisons de coût. Alors, on a des petits enseignements à gauche, à droite, dans les autres écoles d'agriculture, mais on voit bien que c'est tout un enjeu aussi qui se trouve au niveau de quel savoir, finalement, on va construire ensemble pour cette agriculture en 2050. Allez.
Yann Huglier, est-ce que vous êtes aussi optimiste, ou est-ce que vous êtes peut-être plus noir dans vos prédictions ?
Non, moi je suis toujours optimiste. Non, je crois qu'effectivement, il faut, Il faut être cohérent. Je pense qu'on est en train de prendre un certain virage au niveau de l'agriculture, au niveau de la production, au niveau de la réalité des consommateurs. Je pense qu'en 2050, à mon avis, l'enjeu il se situe autour de la problématique de la disponibilité des terres agricoles, qui va effectivement toujours s'éroder en Suisse. Une vision de vouloir finalement assumer un certain auto-approvisionnement de la population suisse. Et puis, face à des enjeux où c'est qu'on a des multinationales qui sont là pour tester des nouveaux produits et des nouvelles installations. Donc je pense qu'il y a un grand enjeu. Je pense qu'il y a des consciences qui sont là maintenant. Je pense qu'on doit... On s'en rend compte aussi. Hein. Je crois que des fois, c'est vrai, dans chaque agriculteur, il y a aussi un être humain. Et puis, il n'utilise pas non plus des produits phytosanitaires pour son plaisir, hein, qu'on soit clair. Mais on se rend compte qu'effectivement, la population... Enfin, si je prends l'exemple du monde viticole, où c'est qu'on a peut-être des interventions qui sont un peu plus conséquentes en termes de passage, je dirais, sur la vigne, on est vite aussi en proximité de voisinage. Et puis, on se rend compte qu'il faut collaborer. Donc, on est pas... Il y a un grand paquet fait. Si on peut donner un exemple sur Neuchâtel, et je pense qu'on va toujours aller dans ce sens-là, c'est que dès l'année prochaine, on aura à peu près 25% du vignoble en bio ou en conversion bio. Donc il y a une réalité qui est là. Mais il y a aussi des techniques qui évoluent et qui permettent d'avoir cette réalité. Parce que derrière un changement de paradigme, à un moment donné, il y a un aspect économique et puis il faut que l'agriculteur puisse assumer son changement, mais sans prendre un risque de tout perdre d'un coup. Donc je crois que la recherche, elle doit, à mon avis, beaucoup plus s'impliquer sur les technologies non-produits phytosanitaires. Donc, les technologies, il y a une multitude de choses, notamment avec l'agriculture 4.0, qui pourra nous donner des solutions en termes de désherbage mécanique, en termes de travailler sur les auxiliaires, les ravageurs. Enfin, il y a vraiment quelque chose à faire. Et je pense que ce qui est très important, et ce que je constate finalement peut-être aussi dans ce canton, c'est qu'on... On a quand même des compétences agronomiques d'une part, on a des compétences scientifiques, biologiques d'autre part, et puis je crois qu'on doit aussi s'accorder les scientifiques un petit peu de mondes différents finalement, mais on veut vivre une agriculture durable, donc on a tout intérêt à trouver un terrain d'entente où chacun doit faire un pas dans la bonne direction, et je crois qu'on doit vraiment en bonne intelligence collaborer le mieux possible, et je pense que ça on doit pouvoir le faire. On a des compétences effectivement dans ce canton. Je crois qu'il faut les mettre à profit. On a aussi de la recherche, on a aussi pas mal de choses qui sont développées dans ce secteur-là. Donc moi, mon avenir et ma vision, c'est effectivement maintenir une certaine production en termes de volume et de matière, de denrées alimentaires, de meilleure qualité, avec limiter maximum l'intrant ou les interventions. Je crois que c'est ça l'avenir 2050, à mon sens, avec une panoplie différente, où c'est qu'on aura effectivement des exploitations qui seront très familiales, des exploitations qui seront travaillées sous la forme associative ou collaborative. Je mettrai un point d'orgue où c'est que Neuchâtel est plutôt en avance à ce niveau-là, puisque à peu près 10, c'est pas beaucoup, vous me direz, mais au niveau suisse, on est à peu près à 2 à 3% de structure associative au niveau agricole. On est à 10% sur le canton. Donc, on se rend compte que quand on bosse à 2, 3, ben, finalement, on partage aussi certaines charges, qu'elles peuvent être de tous bords, au niveau du temps de travail, au niveau de la vie de famille. Hein, je crois que la réalité, elle est différente de l'agriculture. Il y a 20 en arrière. Je crois que les jeunes agriculteurs qui se marient avec des gens du hors cadre agricole, il y a aussi besoin d'avoir des moments de souffler, des moments où c'est qu'il faut laisser du temps à la famille. Donc tout ça, c'est une réalité. Il y avait un mythe un petit peu par le passé pour dire mais si on ne travaille pas 7 jours sur 7, on n'est pas agriculteur. Et je crois que c'est des mentalités qui changent. Et je pense que c'est de bon augure parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Et puis on a besoin aussi d'échanger avec la société de manière générale. Et c'est lorsqu'on est finalement face à d'autres corps de métier, qui ont aussi d'autres réalités, que ça soit le maçon, que ça soit, entre guillemets, toute autre personne, à un moment donné, c'est ça qui nous permet de prendre un petit peu de distance, et puis finalement de se rendre compte aussi, parce qu'on a des gens qui sont pas du tout du milieu agricole, qui sont installés, qui se rendent compte que finalement c'est aussi un très beau métier, ça permet d'avoir une disponibilité pour la famille qui est aussi plus importante, ça, des grandes journées certes, mais une certaine disponibilité, il y a des gens qui tous les jours quittent le matin leur famille à 7h, la rejoignent à 7h le soir, voient qu'une heure de temps leurs enfants, et les agriculteurs ont aussi un avantage sur ce côté-là. Donc voilà, 2050 positif, avec une multitude de diversification de production, très positif pour moi.
Merci beaucoup pour cette vision, et vous, Vincent Després. brièvement.
Alors, moi, je vais plutôt revenir sur la ville et sur son développement. Ça a été évoqué tout à l'heure, on fait face à un accroissement des villes. Ça génère ce qu'on appelle ce mitage du territoire. Hein. On ne sait plus où prendre de l'espace. Parfois, et là, il y a un dilemme, justement, qui moi, m'interpelle, en tout cas, me préoccupe, et je ne suis largement pas le seul, mais se dire, on parle souvent de densification urbaine, je pense qu'il faut trouver un juste milieu, parce que là, justement, on ira au-devant de problèmes. Et je m'écarte un petit peu de la problématique purement agricole, mais je pense que dans les développements urbains, dans les mutations de nos villes aujourd'hui, on doit garder un bon équilibre entre ce qu'on appelle les pleins et les vides, et que la densité, la densification urbaine n'est pas forcément si intéressante que ça. Je pense qu'on peut justement imaginer peut-être des surélévations, j'ai n'importe quoi, de certains bâtiments, mais qu'on doit garder un maillage d'espaces de qualité qui vont permettre justement d'avoir une qualité de vie, d'offrir une qualité de vie pour le loisir, pour le délassement des gens qui vivent en ville. Hein. C'est quand même une majorité des habitants de ce pays. Et puis qui pourront justement permettre peut-être de continuer à développer des espaces de production alimentaire en ville, des jardins partagés ou autres, et pas vouloir à tout prix vouloir densifier, remplir l'ensemble des éléments qu'on appelle des dents creuses aujourd'hui ou des friches. Je pense qu'il faut les maintenir telles quelles, de manière à garder un bon équilibre entre le construit et le non construit, les espaces libres qui trouveront différentes vocations qui vont aussi évoluer pendant ces 35 années à venir.
Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, il est temps de passer maintenant, de donner la parole au public pour l'heure traditionnelle des questions. Alors, monsieur.
Merci beaucoup. Ces jardins partagés, c'est un peu idyllique. Ces plantons, il faut quand même les acheter, ils coûtent quelque chose. Ou bien on achète des graines qu'on cultive jusqu'à ce qu'ils deviennent des plantons, alors on les plante, et ensuite alors qui cueille ces légumes et ces choses? Ça me rappelle ce que feu mon père me racontait de mon grand-père qui était fondeur chez Georg Fischer à Schaffhouse, qui habitait dans un quartier périphérique de la ville de Schaffhouse. Il avait planté dans son jardin ouvrier un petit cerisier, et au bout de quelques années, ce cerisier avait donné bien des cerises, et puis le jour où il a voulu cueillir ses cerises, il n'y en avait plus aucune. Alors il a pris sa hache et il a abattu le petit cerisier. Ceci pour dire qui paye et qui se sert. Voilà une question.
Merci. Alors, pour ce qui est du domaine public, et si on reprend l'exemple de cette année au niveau des massifs qui ont été aménagés en ville avec des plantes à caractère comestible, c'est vrai que là, c'est la collectivité, c'est la ville, c'est le service des parcs et promenades qui a cultivé ces végétaux dans notre établissement horticole qui se trouve à Cernier sur le site d'Evologia aujourd'hui aussi, et puis qui les a mis en place dans les plates-bandes, qui les a entretenus tout au long de l'année de manière à ce qu'elles puissent se développer correctement, et pour que les citoyens puissent en cueillir et en récolter les fruits, quelque part, et les légumes. Donc voilà, donc ça c'est, mais chaque année, de toute façon, on dépense de l'argent, il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour ces actions de florissement, et puis on trouve que c'est pas complètement inintéressant que parfois, au lieu que ce soit des fleurs qui soient certes parfois esthétiques et belles ou qui sentent bon, de temps en temps, d'imaginer que ce soit des légumes qui puissent être consommés de manière un petit peu différente. On ne va pas le faire chaque année, rassurez-vous, parce que peut-être qu'on pourrait s'en lasser aussi, mais on s'en reviendra de manière un petit peu cyclique, comme ça, ce genre d'utilisation dans les massifs. Et puis, comme j'expliquais tout à l'heure, après, c'est au bon vouloir et des citoyens. Il y a un élément que j'aimerais quand même aussi relever, qu'on a rencontré cette année, contrairement aux autres années, il y a eu très très peu d'actes de vandalisme. Les gens ont admirablement respecté tous ces massifs qui ont été réalisés. Ces légumes qui sont à disposition du public ont été bien, bien respectés, ce qui n'est pas forcément toujours le cas les autres années avec des massifs floraux classiques. Y compris, je ne sais pas si vous avez vu, au jardin anglais, il y a des dispositifs avec des saules tressés qui ont été mis en place de manière à créer une certaine scénographie. Même ces éléments-là n'ont pas subi de dégradation, alors qu'on craignait beaucoup, on imaginait qu'après le premier week-end, tout serait arraché, mis au lac ou voire autrement vandalisé. Donc il y a eu, bizarrement, touchons du bois. Oui, mais ça c'est bientôt, il paraît que c'est bientôt. Mais quoi qu'il en soit, la fête des vendanges à Neuchâtel, pour ceux qui ne le savent pas, ça sonne le glas des massifs. Et après la fête des vendanges, on passe en mode hiver et... Après la fête des vendanges, on passe au mode hiver, donc tous les massifs estivaux vont quoi qu'il en soit disparaître. Donc s'ils veulent s'acharner dessus, ma foi, tant mieux. Mais voilà, c'est un élément que je voulais aussi rajouter, c'est qu'on a eu plus de respect cette année que les autres années. Peut-être qu'il y a une des raisons qui se trouve dans le fait qu'on a des plantes qui sont consommables, comestibles, et qu'on respecte mieux une tomate, un plant de tomate, du persil ou autre chose, des plants de maïs, que les fleurs qu'on voit habituellement dans ces massifs.
Alors, avant de repasser la parole au public, je me permets juste une petite entorse au règlement habituel, parce que Jérémy Fornet m'a averti hier qu'un de ses collègues qui vient de l'Institut de la technologie de Bandung est présent ici cette semaine à Neuchâtel. Il est spécialiste d'agriculture urbaine. Il s'appelle Anga Duyartharma. Is it correct? Et donc, il aurait souhaité apporter un point de vue indonésien, au fond, sur cette thématique de l'agriculture urbaine. Alors, peut-être que je me permets de vous poser une simple question. Maybe I can say it in English, then I translate. So, how do you see this topic of urban agriculture in from your own country, and how does it sound? Is it also a reality that exists in very big cities of Indonesia? Is it also emerging? And how do you perceive it? Voilà, donc la question, vous l'avez compris, c'est comment vous voyez cette thématique de l'agriculture urbaine et des potagers urbains depuis un point de vue indonésien? Est-ce que ces thématiques de la production du local, du partage, se posent aussi dans votre pays?
Merci beaucoup. Thank you so much. I'm really honored to be here. Probably a bit of story about Indonesia. What I found interesting, and sort of comparing this with the growth of urban agriculture in Neuchâtel and in Switzerland in general, is that it's something of a global phenomenon. So it's not only in this particular local in Neuchâtel, it's not only in my city in Indonesia, but something big going on with this. Okay.
Peut-être je vous traduis, maybe I translate just the step by step because it will be easier for me and for the people. Donc Anga nous dit que ce qui l'a frappé aujourd'hui avant tout, c'est de voir que justement de sa perspective indonésienne, c'est un phénomène global, vu que c'est pas seulement ce que lui étudie dans sa ville de Bandung sur l'île de Java, mais c'est aussi ce qu'il entend discuter ce soir ici à Neuchâtel.
Urban agriculture in my city, in Indonesia, has become part of this growing movement, what we call alternative food movement. And it evolves from what it's actually a simple initiative into a network where all of these initiatives link with each other. And now it becomes a movement where people work together to achieve something bigger than his own or her own gardens or local initiatives.
Alors, ce qu'il a pu constater, lui, dans son contexte indonésien, c'est qu'on a eu d'abord que toute cette agriculture urbaine participe finalement d'un mouvement plus global qui a émergé d'abord par des petites actions très localisées, des gens qui avaient leur propre initiative, un petit groupe, et qui finalement se sont mis en réseau, ont commencé à travailler, et finalement ça devient un mouvement social beaucoup plus fondamental qui essaye de se mettre d'accord sur des objectifs communs aussi, et finalement d'avancer ensemble dans une direction.
Of course, we do have a lot of problems as well. I think similar to what happened here in Neuchâtel. At least there are three issues surrounding the urban agriculture in Indonesia. The first one is on the discourse between the top-down approach and the bottom-up approach. That's the first. And the second one is on the organic and the hydroponic or the precision farming. And the third one is on whether it's something of a middle upper class movement or whether it also encompasses the poor people in the city.
Alors, du point de vue de l'Indonésie, il y a aussi des problèmes, bien sûr, avec ces développements d'une agriculture urbaine, que ce soit sous ces différentes formes. Une des tensions, c'est celle entre des approches qui sont très dirigistes, hein, top-down, comme on le dit en anglais, plutôt que cette émergence par le fond. Donc, comment est-ce que ça se rencontre, finalement, avec un contrôle étatique qui est des fois peut-être plus serré que chez nous. Il y a aussi cette tension sur est-ce qu'on est bio ou on ne l'est pas forcément, ou d'autres méthodes aussi propres de l'agriculture urbaine comme l'hydroponie ou l'aéroponie qui sont ces nouvelles technologies finalement qui permettent de cultiver sans sol, on pourrait dire, hein, quelque part. Avec aussi une tension par rapport, là c'est moi qui rajoute, mais on en avait discuté ensemble, très intéressante, par rapport au gouvernement qui ne peut pas trop se permettre de soutenir une agriculture bio en Indonésie par rapport aux immenses lobbies finalement d'une agriculture industrielle. Vous savez qu'on a beaucoup d'huile de palme, une grande partie vient d'Indonésie, pas tellement en Suisse, mais dans le reste du monde, oui. Par exemple, pour vous donner un exemple. Donc il y a aussi ces problèmes-là. Et finalement, un problème qui est très similaire aux discussions qu'on a ici, mais je pense que cette comparaison nuance déjà le propos, c'est est-ce que c'est un phénomène de classe moyenne, finalement de gens aisés, ou est-ce que c'est un phénomène qui peut aussi atteindre des classes les plus défavorisées d'une société? On peut le répondre déjà en partie, là c'est moi qui le rajoute aussi, par le fait que au niveau global, c'est pas que les pays riches, hein, voilà, on le voit, il y a aussi dans des pays qui sont moins développés économiquement ce même phénomène. Par contre, au niveau interne de chaque pays, c'est une question, je pense, qui reste.
Probably. So about the between the organic, in some cases, the communities or the initiatives or see urban agriculture is as part of a movement towards a healthier environment. Whereas in the other sense, with the hydroponics, you don't really talk about environment. You talk about how to produce food. So that's two different streams of the way you see urban agriculture. The other one on the between the middle class and the poor, like because even before the urban farming movement comes in Indonesia, the poor has already produced their own food. They have their traditional food just behind their houses, in the gardens, small gardens. But now people are starting to work on this. The middle class society in Indonesia is starting to grow what is actually a bit distant from the society. Like for instance, they produce kale or romaine lettuce, something that we've never actually eaten before. So it's interesting to see this dynamics, and I do see that like all of them have impact, a positive impact towards the growth of this awareness of food and being self-sufficient. But there are of course some issues behind that, and we need to address that.
Thank you, Inga. Juste pour revenir, il expliquait justement, c'est un mouvement qui lui-même est divers, il contribue pas seulement à la diversité de l'agriculture, mais on a par exemple, il parlait de ces deux mouvements qu'on a mentionnés entre l'agriculture 4.0, c'est-à-dire c'est lui ce qu'il réfère sous le nom d'hydroponique par exemple, donc ces nouvelles technologies finalement qui se déconnectent encore de l'environnement, où on se pose pas tellement la question environnementale générale, mais plus de production alimentaire en ville, et un mouvement qui est plus proche peut-être des jardins potagers ou comme ça, qui parle de reconnexion à un environnement sain, de durabilité d'une protection finalement de l'environnement à travers la production alimentaire urbaine. Et sur la question classe moyenne ou classe défavorisée, finalement, en Indonésie, on a encore toute une partie d'agriculture de subsistance, que ce soit même dans des contextes plus ou moins urbains ou à la campagne, où finalement les plus pauvres, parfois, ils produisent quand même déjà une partie de leur alimentation. Et par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au niveau de la classe moyenne, et là on retombe sur cette idée de rediscuter qu'est-ce que c'est notre alimentation, finalement, comment est-ce qu'on la produit, c'est que ces mouvements-là ont amené aussi des nouveaux produits, typiquement des salades, qui ne font pas partie des repas habituels, finalement, indonésiens, mais qui commencent à pousser dans les villes. Et puis, donc il y a une rediscussion aussi autour de l'alimentation plus fondamentale autour de ces mouvements-là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions du public ?
juste quelque chose qui avait été dit par Jérémy Fornet qui m'avait un peu surprise en fait. C'est le fait que les Suisses, la Suisse soit le pays où on dépense le moins par rapport à son revenu pour l'alimentation. Est-ce que vous avez des explications par rapport à ça ?
Ah bon, il s'agit d'une moyenne.
Hein. D'accord.
Comme certains le disent, la statistique est le superlatif du mensonge, c'est-à-dire qu'on peut lui faire dire beaucoup de choses. On peut corriger tout de suite ce chiffre en disant que si on met aussi la part qui est dépensée en restauration, on double le pourcentage. De 6, on arrive à peu près à 12% du revenu. Il y a beaucoup de choses qui l'expliquent. C'est ce qu'on appelle l'îlot de cherté de la Suisse, c'est-à-dire qu'on paye tout très cher finalement. C'est pas qu'on paye notre nourriture bon marché, c'est qu'on paye le reste plus cher, mais qu'on a aussi des salaires qui sont largement au-dessus de la moyenne, même des pays avoisinants. Ça dépend des corps de métier. Enfin, c'est une thématique complexe. Mais on a clairement quelque chose qui fait qu'un standard de vie suisse, finalement, il inclut des dépenses qu'un standard de vie français n'inclut pas forcément. On peut comparer les standards de logement, par exemple, ou comme ça. En moyenne, toujours en moyenne, ça ne veut pas dire que tout le monde est dans cette situation, mais en moyenne, on dépense moins, et ça, c'est... Alors, on ne va pas se battre sur les 1% ou 2%, hein, mais c'est une différence qui est largement plus significative que ça. Je n'ai pas les chiffres comparatifs pour tous les pays européens. Mais peut-être qu'on pourrait nuancer aussi, c'est... Alors, par rapport aux autres pays européens, c'est peut-être pas aussi significatif, mais par rapport à des pays qui subventionnent beaucoup, enfin, où il y a moins d'argent qui est investi en termes de politique agricole, c'est-à-dire on pourrait aussi s'amuser à diviser l'argent qui est versé dans le secteur agricole pour dire, voilà, mais finalement, c'est ce que nous coûte de maintenir aussi en partie, et les peuples suisses sont tout à fait d'accord avec le maintien de ça. Je ne suis pas en train de critiquer ce système-là, mais je suis juste en train de dire que finalement, maintenir l'agriculture, non seulement on a des prix qui sont comparativement plus élevés, mais en plus, ça nous coûte aussi parce qu'on a un système qui pose certains problèmes en termes de compétition internationale à travers ces différents coûts de production et comme ça. Donc finalement, la figure, elle est... Si on veut aller vraiment chercher, il y a toujours plus de complexité qu'on le croit. Oui.
Question à M. Desprats. Est-ce qu'une commune comme Neuchâtel a le courage de... laisser à l'initiative d'une population de quartier des terrains, ça peut être des terrains vagues, ça peut être des bouts de gazon. S'il y a une initiative qui est prise, est-ce qu'elle a le courage de ne pas vouloir tout gérer et tout contrôler ? Est-ce qu'elle a le courage aussi, vu le manque de finances qu'il y aura ces prochaines années, où on va serrer partout, de laisser ces initiatives avec le risque, des fois, que ça peut devenir chaotique, mais qu'on évite de vouloir faire partout des arrangements perfectionnés à la Suisse. J'entends avec des aménagements, des murets, des je sais pas quoi.
Ben, c'est marrant parce que pendant toute la soirée, là, j'ai longtemps hésité d'amener ce sujet sur la table parce que je me suis dit, je vais le ramasser en pleine figure comme un boomerang. Et puis, à partir du moment où je ne maîtrise pas l'ensemble du foncier de la ville, je ne vais peut-être pas m'immiscer et marcher sur les plates-bandes des services voisins. Mais c'est vrai, si on reprend le démarrage un petit peu de tout ça, alors Neuchâtel n'est pas New York, mais les jardins de poche, les pocket gardens, les guérillas urbaines, ben, c'est justement les habitants qui ont investi des non-lieux, qui ont investi ce qu'on appelle, ce que j'évoquais tout à l'heure, les dents creuses, et puis l'homme ayant horreur du vide, ben, qui ont utilisé ces espaces pour pouvoir justement en tirer une certaine forme de profit. Alors pour vous rassurer, au niveau du service que je suis censé diriger, on met déjà en place ce qu'on appelle une gestion différenciée. Tous les espaces paysagers ne sont pas entretenus comme le jardin anglais, qui est ce que j'appelle un petit peu notre vaisseau amiral. On a en périphérie de la ville des espaces pour lesquels on laisse la nature un peu plus se développer, la nature avec beaucoup de guillemets, parce qu'il faut encore savoir ce qu'on évoque derrière ce terme de nature en ville. Ça pourrait faire l'objet d'un autre café, mais c'est pas complètement inintéressant non plus. Mais c'est vrai que je me posais moi-même la question pendant les débats, comment on réagirait si tout à coup, dans un talus du côté du Chanet ou dans un espace périphérique, on voit une association de quartier ou des gens comme ça commencer à investir ces lieux. Moi, je serais
plutôt assez favorable, mais peut-être que je serai le seul. Alors, je ne sais pas comment vous répondre et savoir si j'implique d'autres décideurs dans cette dynamique-là. Mais c'est aussi ce qui a fait la richesse de tous ces exemples de jardins partagés, où c'est souvent parti d'initiatives un petit peu, je ne dirais pas de manière anarchique, mais qui ont justement investi des lieux pour y faire autre chose que ce pour quoi ils étaient au départ destinés. Ceci dit, à Neuchâtel, bah comme ça a été évoqué tout à l'heure, la nature, l'agriculture est très proche. Hein. Quand on est au bord du lac et qu'on regarde en direction de Chaumont, on a l'impression qu'on peut toucher la forêt. Hein. Tout est très très proche. On n'est pas dans une immense métropole qu'on peut rencontrer dans d'autres continents ou même à travers l'Europe. Et puis, des friches, à proprement dit, il n'y en a pas non plus énormément aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a des espaces qui sont, pour nous, difficiles à entretenir. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais du côté des cadoles, ce printemps, ben, on a décidé de mettre des moutons pour entretenir le talus, parce que c'était quelque part à la fois, entre guillemets, un peu plus propre en termes d'émissions de gaz carbonique que de le faire avec des débroussailleuses ou des faucheuses mécaniques. Ça permettait aussi de valoriser l'herbage qui est dans ces prairies, et puis ça évitait à nos collaborateurs de se tordre les chevilles, les genoux, à courir après une faucheuse. Donc voilà, ça répond peut-être en partie à votre question, mais on imagine aussi d'autres moyens pour entretenir ces espaces qui sont parfois un petit peu difficiles que des moyens mécaniques qu'on utilisait jusqu'à présent. Donc pourquoi pas imaginer de replanter dans ces talus d'autres choses, de manière à ce que ça puisse servir aussi pour y produire quelques légumes, pourquoi pas.
Il y a peut-être des endroits, des villes comme je crois à Bienne, où un espace en friche, je crois un ancien terrain de foot a été investi justement par une initiative purement citoyenne, et puis les autorités municipales par-dessus ont au fond validé et pérennisé le projet. Donc après, c'est vrai que ça dépend où et...
Oui. La population du quartier, la prise en main par les gens du quartier.
Donc je crois que c'est une constante, hein, la pérennité de l'accès à la terre dans les espaces urbains est très compliquée à obtenir. On avait aussi l'exemple, je parlais de l'exemple de Châtelois de Rage de Verre, qui est donc une forme de panier bio, qui avait eu des terrains à disposition de la part de la ville, mais qui a dû finalement partir parce que voilà, il y avait des constructions qui allaient venir et comme ça. Donc ça a été une épreuve, ils ont trouvé des solutions, mais voilà, c'est quelque chose qui est toujours discuté. Mais ça, moi j'ai envie juste de... Là, c'est un grand saut, mais si je reviens à cette idée de pourquoi ça m'intéresse ce qui se passe sur ces choses-là, c'est au-delà du succès ou de la pérennisation de ces initiatives, c'est que déjà par leur existence, il y a quelque chose qui se passe. Et donc finalement, si une initiative est vouée à l'échec, ben, c'est dommage pour tous ceux qui ont investi leur travail, leur énergie, leur rêve dedans, mais d'un point de vue plus global, il reste partie de quelque chose qui finalement se développe, finalement, et qui continue d'émerger, qui finalement aura fait qu'il y a eu pendant une période quelque chose de différent qui s'est créé sur cet endroit-là. Donc je pense que c'est juste pour penser aussi au-delà de l'idée, est-ce que ça va vraiment nourrir la terre, est-ce que ça va vraiment réussir à se pérenniser ou pas, ben finalement, pour moi, ce n'est pas la question la plus importante, en tout cas à court terme. La question la plus importante, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui se pérennise en termes de mouvement plus général, plutôt qu'initiative individuelle.
Mais si je me permets de rajouter aussi quelque chose, ça peut se faire, je pense, aussi en collaboration puis en bonne intelligence entre les différents partenaires. Nous, on a été sollicités par l'association de quartier du Mail, qui, sur la plaine du Mail, là où on a une place de jeu, il y a des grandes surfaces un petit peu stériles en gazon, a souhaité pouvoir y développer une zone de jardin partagé, qui a été réalisé aussi cette année, et puis ça se passe relativement bien. Maintenant, bah oui, c'est vrai qu'on est sur du domaine public, on doit gérer ce domaine public, c'est sujet à autorisation, on peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, donc ça risque de poser des problèmes, mais je pense que si dès le départ ça se fait, comme je dis tout à l'heure, en bonne intelligence et en collaboration, on arrive à trouver des solutions qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir développer différentes activités.
Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui, monsieur.
Une toute petite question. Et les jardins privés qui sont nombreux et souvent pas très entretenus, peut-être qu'ils auraient aussi plaisir à tirer profit des conseils de nos autorités pour éventuellement participer à ces actions. Je ne sais pas s'il y a eu déjà des tentatives ou des idées dans ce sens-là.
Alors, des idées, moi, ça fait qu'un an que je suis là, donc je ne vais pas faire l'histoire de, j'ai pas l'histoire de la ville, mais par contre, c'est vrai que dans le cadre, et vous en avez peut-être déjà entendu parler, à Neuchâtel, il y a toute une politique nature en ville qui se met en place. Il y a eu différents volets qui ont déjà été réalisés. Et puis, dans une discussion qu'on a eue dernièrement avec le groupe de coordination, on s'est justement posé cette question, de se dire jusqu'à présent, sur le domaine public, on veillait à pouvoir développer une certaine forme de biodiversité, on utilise des plantes, si possible, indigènes, on essaye de faire comme il faut, quelque part, ou au mieux, tout au moins. Et puis, par contre, juste de l'autre côté de la limite, on a du domaine privé, et puis là, on intervient très peu. Alors, je pense que c'est une piste qu'on aimerait pouvoir développer pour les années à venir. C'est justement aussi, sous forme, pas d'obligation, mais de conseils, de recommandations, intervenir aussi sur les privés et puis les conseiller sur des bonnes pratiques. Aujourd'hui, là, on s'écarte des potagers. On a des gros problèmes avec des plantes invasives qui se développent comme ça, qui se propagent. Nous, on doit, sur l'espace public, les enlever, les éradiquer. Mais par contre, il n'y a aucune sensibilisation, on n'a aucun moyen, aucun levier pour le faire sur le domaine privé. On a des élantes, par exemple, qui sont relativement problématique, qu'on voit pousser derrière des grillages sur du domaine privé, mais on n'a quasiment pas de moyens de pouvoir les faire en retirer par les propriétaires de ces espaces. Donc là, je pense que dans les années à venir, on va se poser des questions justement sur une sensibilisation aussi des acteurs privés, sur des bonnes pratiques, sur des conseils, des recommandations à mettre en place pour gérer aussi correctement ces espaces.
À propos de ces jardins privés, nous avons des amis qui habitent à Sydney, c'est près de Sydney,
en Australie, merci beaucoup. Alors là, effectivement, il y a des jardins que les propriétaires trop âgés n'arrivent plus à entretenir. Nous avons assisté, par exemple, ils vont par groupe de 6. Là, c'était une dame qui avait de l'emphysème et qui ne pouvait plus entretenir son jardin. Lui, il a une remorque où il enlève les broussailles. Et puis, alors, ils mettent des journaux mouillés, ils mettent par-dessus des écorces d'arbres et les gens ont la paix ensuite pendant 6 mois comme ça. Et ça leur coûte $25 australiens, ça fait 25 francs, et puis ils ont la paix pour 6 mois comme ça. Et le jardin est entretenu, tip-top, pas de problème. Voilà.
Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que ce soit l'entretien de jardin d'agrément, où là c'est plus la question, ou de jardin potager d'autant plus. Un des gros soucis qu'on a de nos jours, c'est la main-d'œuvre, c'est le travail. Que ce soit pour les agriculteurs qui eux-mêmes déjà dans leurs propres revenus sont mis sous pression, mais si on est dans la production de légumes, on a aussi toute la question de les employer. On sait que c'est une main-d'œuvre immigrée qu'on peut. Alors il y a des normes qui sont respectées plus ou moins en Suisse. C'est pas le pire des scénarios, mais c'est non plus pas un métier de rêve, franchement. Dans les jardins potagers familiaux, du coup, mais pas de ville, dans les jardins potagers privés, disons qu'on voit de plus en plus des exploitations agricoles qui sèment du gazon à la place de l'ancien jardin potager, parce que justement, on n'a plus personne qui a le temps de s'occuper de faire pousser des légumes, et puis c'est tellement meilleur marché d'aller au supermarché pour les acheter. Donc, finalement, cette idée de mise à disposition d'espaces privés pour des collectifs qui, eux, sont prêts à mettre du leur ou comme ça à travailler, à mettre le prix de la sueur quelque part derrière, c'est une solution qui est assez intéressante, qui mériterait d'être creusée en tout cas.
Encore une question, éventuellement ? Si ce n'est pas le cas, je crois que l'heure a sonné. Vous remercie infiniment d'avoir assisté et participé à ce café scientifique. Je crois que c'est l'avant-avant-dernier, c'est juste, Igor ?
Je vais reprendre la parole, alors peut-être. Alors, en tout cas, merci encore à Emmanuel Guérig pour cette animation de cette soirée. Merci aux invités, merci à la technique qui a repris du service. En cette rentrée avec Joël Morf, aussi une pensée à François Bourquin qui nous installe toujours discrètement, le régisseur de ce bâtiment, qui nous fait toute l'installation ici pour vous accueillir. Et puis j'aimerais donc encore quelques mots pour vous annoncer que si vous voulez entendre Monsieur Anga Dviartama parler plus longuement de son expérience, demain soir au MEN, donc au musée d'ethnographie, à 18h30, ça commence par une petite restauration et un bar, et à 20h15, des projections de films sur l'Indonésie. Voilà, donc l'annonce est faite. Et quant au prochain café scientifique, je vous donne rendez-vous le 18 octobre, ici même. On y parlera encore de durabilité, puisqu'on parlera d'hydroélectricité, nos barrages en Suisse, quel avenir pour ces barrages à l'horizon de la stratégie énergétique 2050. Donc d'ici là, eh bien, je vous souhaite une excellente soirée et à dans un mois. Merci beaucoup à vous.